Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. On va relire ça. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. C'est un message tout simple ce matin. Mais étant tout simple, j'aimerais qu'il fasse un chemin dans le cœur de chaque personne présente ce matin ici. Qu'il y ait un chemin d'une découverte nouvelle, d'une dimension plus étendue, de la paix et de la grâce de Dieu au milieu de nous. Que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Jésus va dire ce texte dans Jean 14, puisque Jean 13, 14, 15, 16 et suivants sont vraiment la veille, se passe à la veille de la passion, à la veille de sa mort, de son sacrifice pour nous. Jésus comprend tellement bien ce que vivent les disciples. Il comprend tellement bien ce qui les habite en ce moment, eux qui ont vécu 3 ans avec lui, qui ont vu tant de choses, entendu tant de choses et qui sont maintenant dans l'inquiétude parce que le maître va s'en aller. Mes amis, aujourd'hui, il y a tant de gens qui vivent encore dans les inquiétudes. Parfois, ça ne se remarque pas du tout. Ils ne sont pas toujours tremblants de peur. Mais ils sont parfois même pleins d'assurance. Mais à l'intérieur, ils sont pleins d'inquiétudes, pleins de soucis intérieurs qui reviennent continuellement le jour et même la nuit. La peur et l'inquiétude, parfois quelque chose comme qui n'est pas précis, mais quelque chose qui est latent face à l'avenir. Que vont devenir mes enfants demain? Est-ce que je vais encore garder mon travail dans 5 ans? Est-ce que je vais pouvoir habiter mon appartement? Est-ce que je vais pouvoir payer mon loyer? Est-ce que je vais y arriver? Toutes ces choses, est-ce que je vais être à la hauteur de la tâche qui m'est demandée, de mes responsabilités? Est-ce que j'arriverai à atteindre le chiffre qu'on m'a imposé et qui est tellement lourd à porter, qui est tellement élevé? Est-ce que j'arriverai à traverser la vie avec toutes ces portes fermées? Alors que certains ont peur de rien, mais d'autres sont craintifs face à ces difficultés, ces épreuves et ces défis. L'inquiétude peut gagner n'importe qui, mes amis. L'inquiétude peut gagner même le plus fort d'entre nous, le plus aguerri, le plus affermi, le plus expérimenté. À un moment donné, on peut être rempli de peur. Jésus a eu peur, Paul a eu peur, Pierre aussi. La peur est quelque chose de normal, qui peut nous surprendre, mais Dieu ne veut pas que nous soyons dans un état continuel d'inquiétude. Il ne veut pas que nous soyons continuellement inquiets, que nous soyons inquiets face à quelque chose. Si demain on m'annonce que je vais être emprisonné, que je vais vivre un truc extrêmement difficile ou que je vais avoir l'annonce d'un diagnostic terrible, oui, on serait inquiet. C'est normal, on a aussi l'Église qui nous soutient dans ces moments-là, quand on est sous une pression particulière, mais il n'est pas juste que vous viviez en constante inquiétude. Amen. Non, il ne faut pas cela. Et Jésus parle donc à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas et ne s'alarme pas. Il avait en face de lui des hommes solides qui étaient des bâtis de la vie. Ils étaient habitués aux éléments déchaînés sur le lac de Galilée. Ils étaient habitués au travail dur. Ils étaient confiants dans le Seigneur avec qui ils avaient vécu 3 ans et vu beaucoup de miracles. Mais ils avaient besoin de recevoir cette parole juste à ce moment-là. Et je crois que vous avez besoin de recevoir cette parole juste aujourd'hui. En lisant les évangiles, nous sommes étonnés de voir comment la paix habitait Jésus. C'est quand même incroyable. Quand vous lisez dans Luc 4, Jésus, il est chez lui à Nazareth et tout le monde l'applaudit. Jésus, on est fiers de lui, c'est un enfant du village, il est doué, c'est un rabbin extraordinaire. Et puis, il est dit que les yeux de tous étaient rivés sur lui. Puis à un moment donné, il va changer son langage, il va dire des choses qui vont être beaucoup plus incisives dans les cœurs des gens du village. Et voilà que les gens qui l'applaudissaient, tout à coup, le prennent, le poussent dehors de la synagogue, l'emmènent, poussé par la cohue générale, ils l'emmènent jusqu'au bord de la falaise du village et ils vont le pousser en bas. Jésus est à 2 doigts d'être exécuté, d'être mis à mort et d'être jeté dans le vide. Et la Bible dit simplement qu'il s'en retourna et qu'il a passé comme ça. Il est rempli d'une paix alors qu'il est au bord du précipice. Mes amis, tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, ce ne sera pas fini pour toi. Ce n'était pas fini son ministère. Non, il n'allait pas le jeter parce que le Père était en pouvoir de décision. Jésus se retourne et passe. Il a la paix intérieure. Incroyable, une paix puissante. Il nous est dit dans la suite aussi que pressé par la foule partout, tout le temps, Jésus est à l'écoute du Père et il sait quand il doit s'arrêter. Il sait quand il doit continuer. Il sait quand il doit s'adresser à Zachée. Il sait quand il doit guérir. Il est habité d'une paix merveilleuse et non pas d'une agitation intérieure. Au milieu de la tempête, alors que les disciples, pourtant habitués à maîtriser leur petite barque dans les éléments, ils connaissaient tout ça. Jésus est en train de dormir au milieu de la tempête. Quelle paix incroyable. Face au piège continuel que posent les pharisiens, Jésus, il s'abaisse et il dessine dans le sable. Il est en paix. Il ne se laisse pas manipuler par les éléments, par les foules, par les pièges, par les séductions, par les pressions extérieures. Et dans la nuit où les hommes vont mettre la main sur lui pour le crucifier, il va dire « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». En plein milieu de l'endroit le plus angoissant, à la veille d'une torture, à la veille d'une exécution de toute cruauté, Jésus prononce la parole « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Il ne l'a pas dit au début du ministère quand ils étaient sur la montagne, la transfiguration. Il n'a pas dit cela quand ils étaient en vacances dans un autre coin tranquille. Il a dit ça à la veille de son exécution. Frères et sœurs, la clé de la paix de Jésus, où était-elle? Où était-elle? Sur quoi est-ce qu'elle était basée, cette paix? Sur quoi est-ce qu'elle reposait, cette paix qui habitait Jésus en permanence? Je ne la donne pas comme le monde donne, dit-il. Je ne la donne pas comme le monde donne. Le monde ne peut pas donner la paix. Il peut donner des éléments aidant à une paix sociale, oui. Mais le monde ne peut pas remplir ton cœur de paix. Il peut te fournir un environnement favorable. Le monde te donne des moyens de vivre, mais pas une raison de vivre. Seul Jésus te donne une raison de vivre. Le monde ne peut pas te donner la paix parce que Jésus est le prince de paix. Lui seul peut assouvir la soif de paix qui est au fond de toi. Le monde ne pourra jamais. Si tu habitais dans, imagine, tu habites le meilleur des palaces, dans une tranquillité incroyable. Tu n'as plus besoin de travailler, tu es vraiment là, les pieds dans l'eau si tu as envie, tu vas faire du sport si tu as envie, tu fais tout ce que tu veux, tu as envie. Tu es vraiment au bonheur total. Et tu peux être intérieurement quand même agité. C'est quand même fou. Parce que Jésus seul donne la paix. Nous sommes faits pour être en communion avec lui. Si tu n'es pas en communion avec Dieu, tu ne goûtes pas à cette paix. Avec l'environnement, le meilleur, la paix n'est toujours pas là. On voit ça dans l'Apocalypse, dans le temps du millénium, qu'il y a un règne de paix. Mais ce n'est pas pour autant que la paix mondiale veut dire la paix du cœur. Parce que lorsque Satan sera relâché juste avant la fin du millénium, les gens ne sont pas contents de la paix qu'ils ont reçue. Et ils vont s'aligner et ils vont pactiser avec le diable. C'est comme incroyable. On peut vous fournir le meilleur et vous n'êtes pas dans le Seigneur. Peut-être que vous avez beaucoup de choses, de bonnes choses dans votre vie, mais vous n'êtes pas encore rempli de cette paix qui vient de Jésus. Il est ton prince de paix. Il faut que tu aies Jésus pour avoir la paix. Il faut que tu aies Jésus. La paix, ce n'est pas juste l'absence de conflit. Ce n'est pas juste connaître le succès, l'abondance, d'avoir pas trop de contrariétés, de jouir de la sécurité, ce n'est pas suffisant. D'abord, il faut la paix avec Dieu. La Bible donne le secret de la paix. Il faut que tu sois réconcilié avec le Seigneur. Il faut que tu sois en bon terme avec le Seigneur. Il faut que tu réalises que ce sont tes péchés qui font la distance et qui t'empêchent d'avoir la paix. Lorsqu'on m'a parlé du péché pour la première fois, j'estimais humainement que je n'étais pas parmi les grands pécheurs de ce monde. J'avais de la peine à reconnaître mes petites choses dans la vie que je ne faisais pas bien. Bien sûr, quand j'ai eu l'éclairage du Saint-Esprit, j'ai vu que ces petites choses étaient juste effrayantes. Aux yeux de Dieu, à nos yeux peut-être ce sont des détails, des bagatelles, des petites choses. Mais lorsque le Saint-Esprit vient vous convaincre, vous êtes à genoux en train de pleurer sur votre état de péché. Ce ne sont pas les péchés dans les faits qui sont avant tout graves. C'est notre état de pécheur devant Dieu qui doit être révélé par le Saint-Esprit. Il, quand il viendra, il convaincra de péché, hein, de justice, la justice de Dieu, et de jugement auquel il faut échapper en se convertissant. Jésus-Christ est notre paix, dit Éphésiens 2,14. Il est dit dans Romains 5,1, justifié par la foi, nous avons la paix avec Dieu. La paix avec Dieu. Est-ce que mon frère, ma soeur, mon ami, ce matin, est-ce que tu as la paix avec Dieu parce que tu es justifié par la foi? La foi en Jésus te fait entrer la paix, t'aspire la paix de Dieu. Elle vient se poser comme ça. Lorsque je me suis réveillé après le soir de ma conversion en 1976, lorsque je me suis réveillé le lendemain matin, la paix était là. On n'a pas besoin de me faire un sermon là-dessus, ni une explication biblique. Elle était là, je le savais, je savais que j'étais en paix. Je savais la joie, j'avais la communion avec Dieu. C'était là, une évidence, c'était tellement inscrit au fond de moi, juste comme ça. C'est un cadeau, c'est un fruit de l'esprit, c'est une conséquence de Jésus, la vie de Jésus en vous. La paix égale communion retrouvée avec Dieu. Maintenant, il y a pas seulement la paix avec Dieu, mais il y a la paix de Dieu. Vous allez me dire, mais c'est quoi la différence? La paix avec Dieu, c'est être réconcilié avec Dieu. Ensuite, il y a Philippiens 4,6 nous dit, c'est à peu près les mêmes termes. Souvenez-vous, dans Jean 14, il était dit que votre cœur ne se trouble pas. Et voilà que nous lisons de la bouche de l'apôtre Paul, ne vous inquiétez de rien. C'est la même parole. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et c'est ce que nous avons fait cette semaine. Nous avons fait monter nos cris vers lui, nos soupirs, nos prières, nos supplications, pour beaucoup de choses. Et puis il est dit, et ça c'est ma parole pour vous, et la paix, dites avec moi, de Dieu, la paix de Dieu, de nature divine. Quand Jésus dit, je vous laisse ma paix, c'est pas la paix, c'est ma paix. Et c'est ça qu'il faut comprendre ce matin. La paix de Dieu, écoutez, qui surpasse, qui est plus élevé. Tu as l'impression que tes inquiétudes sont tellement élevées comme le Mont Blanc. La paix de Dieu est plus élevée. C'est un Mont Everest, c'est plus élevé encore. Plus élevé. Elle surpasse, elle se pose dessus pour garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Tu es gardé alors que tu n'as pas toutes les réponses, alors qu'il te manque encore des choses. Mais tu sais que Dieu est là, il t'a entendu. Et une paix, non pas naturelle, mais surnaturel, vient sur ta vie. Alors plusieurs l'ont déjà reçu, et peut-être même la majorité, vous vivez dans cette paix qui vous garde, qui vous accompagne, avec laquelle vous vous réveillez, avec laquelle vous vous endormez. Parfois, vous dites, aïe, j'ai perdu un peu la paix, je prise, je saisis ma promesse et mon héritage, et je dis, Seigneur, ta paix, c'est mon héritage, je la garde, elle est sur moi. Je suis dans ta paix et je suis en communion avec toi et tu t'occupes de mon cas. Et cette paix vous accompagne, elle vous garde, elle est surnaturelle. Comment est-ce que je peux être en paix face à des mauvaises nouvelles, face à la mort d'un proche, je pourrais ajouter des choses, devant un diagnostic difficile, un licenciement, une séparation douloureuse. Comment est-ce que je peux être en paix devant la solitude? Je vois aussi tant de célibataires qui sont agités. Et j'aimerais vous dire, j'ai un cœur pour vous, vraiment. On prie pour vous vraiment et on essaie de vous entourer. Par rapport dans les conflits familiaux qui n'ont pas de fin, il y a des conflits qui ne s'arrêtent pas, qui sont toujours là. Comment avoir la paix? Comment avoir la paix? Jésus ne fait pas abstraction de la réalité. Jésus, il est conscient de ce et il sait parfaitement ce qu'il attend. Il sait le mal qu'on va lui faire. À Gethsémané, il vit un moment tragique, d'une intensité émotionnelle incroyable. On ne peut pas imaginer. Écoutez, même un peu avant, il est dit dans Jean 12, 27, il va dire, il est en train de parler, puis tout à coup il dit, « Maintenant mon âme est troublée, que dirais-je ?» Jésus, il n'est pas en train de marcher à 3 mètres au-dessus de la terre, il est dans la réalité du monde. Il est dans la réalité des pressions et à la veille de son martyre, il sait ce qui l'attend, mais la paix est pourtant là. Et on dirait que parfois la paix veut se décrocher de lui. Mon âme est troublée, que dirais-je? On dirait que la paix est en train de s'en aller un peu. Après, il continue, Jean 13, 21. Lorsqu'il est avec ses disciples, il va dire, Jésus fut troublé dans son esprit. L'un de vous me livrera. Donc Jésus Il a des moments où il y a une lutte, un combat qui se passe, où la paix veut presque s'en aller, mais il la retrouve. Et ensuite viennent les chapitres 14, 15 et 16, qui sont les grands chapitres tellement importants, qui relèvent et qui révèlent clairement la source de la paix. Écoutez, la source de la paix, c'est ça la clé du message de ce matin. La clé pour la paix, c'est la relation avec son Père. Son Père, son Père, son Père. Jésus va dire dans beaucoup de textes, dans Jean, c'est Jean qui fait ressortir ça, « Selon ce que j'entends, je parle. Selon ce que je vois, je fais. Le Père est avec moi. Là où le Père est, je suis. » Il est dans une communion avec le Père, qui est une communion de confiance et de connexion juste extraordinaire. Regardez, lisez avec moi Jean 16, 32. Juste une page plus loin. Jean 16, 32. « Voici, l'heure vient, et même elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, où vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. » Car le Père est avec moi. La vérité, je ne dis pas son ressenti, mais la vérité de la présence du Père en toute situation, même aux situations extrêmes, où ses amis vont l'abandonner tous, où Jésus va dire, vous me laisserez seul, mais je ne suis pas seul, car le Père est avec moi. On a bien fait de chanter tout à l'heure, non, jamais tout seul. On a bien fait de chanter ça. Le Père est avec moi dans l'heure la plus sombre de ma vie. La paix qui surpasse tout ce que nous pouvons comprendre. C'est ça la paix qui est pour toi ce matin. Là où tu ne comprends pas, là où tu dis, mais ce n'est pas possible que je sois agité. D'où ça vient cette agitation intérieure? Oh, ces événements et ces éléments qui m'inquiètent, j'en ai assez, ça me fatigue. Beaucoup de gens sont malades à cause de ça, vous savez. Et prennent toutes sortes de médicaments à cause d'une inquiétude sous-jacente. Inquiétude, inquiétude. Le Père est avec toi. Ne crois-tu pas que je suis dans le Père, que le Père est en moi, dira-t-il encore à ses disciples. Il dira ça à Philippe. Jean 15, 9, comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé. Jean 16, 15, tout ce que le Père a est à moi. Vous savez, cet échange, cette proximité, cette intimité avec le Père était unique dans la vie de Jésus. Unique, unique. C'est pour ça qu'il avait la paix, parce que cette paix céleste venait parce qu'il était dans le Père. Et Dieu aujourd'hui désire te dire, il faut que tu sois dans le Père comme moi j'ai été dans le Père. C'est pour ça que Jésus dit, et c'est la parole, je vous donne ma paix, la paix que j'avais moi dans mon intimité avec mon Père, c'est ça mon héritage pour toi. Ce n'est pas uniquement la paix. Jésus va dire, je vous laisse la paix, ça veut dire, je m'en vais, mais je vous laisse pour le moment où vous avez besoin de traverser cette période-là, je vous laisse la paix, je vous donne un héritage, puis je pars. Mais bien plus que ça. Non seulement Jésus te donne la paix juste pour le moment que tu as besoin de traverser aujourd'hui, le moment qui te charge aujourd'hui, il te donne une portion de sa paix, il te donne la paix réma, la paix qui est ajustée à ta situation, qui est une parole pour toi aujourd'hui, pour ta situation. Mais il dit, je vous donne ma paix. La paix qui est en moi et qui provient du Père, c'est ton héritage, c'est pour toi. Est-ce que vous comprenez ce que je veux vous dire? Ma paix, c'est pas la paix, c'est ma paix. Lorsque vous étudiez la vie de Jésus, vous voyez qu'il était fondé dans le Père, dans son identité et dans son avenir. Il se réjouissait à 5 reprises de dire, je m'en vais au Père. Je les ai notés pour vous les 5 fois. Jean 14, 12. Jean 14, 28, Jean 16, 10, Jean 16, 16, et Jean 16, 28 donne à chaque fois, je m'en vais au Père. Il ne faut pas que le Père soit un étranger pour vous. Il ne faut pas que le Père soit un étranger pour vous. Il sait ce qui est devant lui, mais il sait que le Père est avec lui. Écoutez, même à la croix, même au moment où il est crucifié, où il va dire ces 7 paroles, il va dire à un moment donné, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On a l'impression que la paix est partie. On a l'impression que le Père est éloigné. Alors, c'est mon interprétation. D'un côté, on peut dire, il est chargé du péché du monde, il a été fait péché pour nous, donc forcément le Père n'est plus là. Il ne peut pas voir le péché. Mais peut-être aussi que Jésus, dans son humanité totale, il a ressenti que le Père n'était plus avec lui, mais qu'en réalité, ce n'était pas vrai. C'est aussi possible. Pourquoi ? Parce qu'à la fin, juste quelques temps plus tard, Jésus est resté 6 heures à la croix, de 9 heures à 3 heures. À la fin, il va dire, « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » Il a retrouvé la paix. Il a retrouvé. Le Père ne le quitte jamais. Et si, même si l'interprétation que Jésus a été abandonné du Père, on va accepter que c'est possible aussi. Jésus a accepté ce moment incroyable, lui qui était dans une telle proximité pour que toi et moi, nous ne soyons jamais, j'écris en majuscule, jamais séparés du Père. À aucun moment de ma vie, que ce soit le plus haut ou le plus bas, je ne suis jamais séparé du Père. Il faut que je reste dans le Père pour avoir la paix, ma paix, la paix de Jésus. J'ai relu une série de témoignages hier des derniers baptisés des dernières années. Et j'ai été frappé en lisant les textes des baptêmes parce que à beaucoup de reprises, et j'étais surpris par ça, le rôle du Père terrestre a été évoqué dans beaucoup de témoignages, presque même à chaque fois. Et très peu ont témoigné d'un Père qui a été vraiment un modèle, un exemple extraordinaire, qui a été vraiment ce Père sécurisant, ce Père qui a pris sa place vraiment à côté de la maman pour être là et guider l'enfant qui est devenu grand. La plupart ont parlé de troubles familiaux où le père n'était pas à sa place, où il y avait souffrance, vide, manque. Et j'aimerais vous dire, ce n'est pas seulement les témoignages de baptême qui nous disent ça, je crois que c'est une généralité dans notre vie aujourd'hui. Et ce matin, je crois que cette parole est quand même juste pour vous aussi et pour nous. Parce que moi, j'aimerais vous dire, personnellement, j'ai été guéri de beaucoup de choses par la révélation du Père parfait. Quand il est venu dans ma vie, et je me vois encore, lorsque j'étais à l'école biblique en 1979, 80, 82, eh bien, je me vois encore marcher dans ces longs trajets, aller-retour, et je me baladais, et j'étais en train de me débattre avec cette question du Père. Cette question du Père, et voyez-vous, ce qui est extraordinaire, c'est que Jésus, à un moment donné, il me l'a révélé, quoi. Il me l'a révélé. Il m'a dit, mais je suis ton Père. Comme dans le film, je suis ton Père. Je suis ton Père. Et cette révélation, ça a mis plein de choses en place. Ça m'a redonné une personnalité, une structure. Ça m'a donné une identité. Ça m'a donné ce que j'avais reçu qu'en partie, en partie. Et je bénis Dieu pour tout ce que mon papa m'a laissé. Mais ce que le Père céleste veut faire, c'est juste magnifique, quoi. J'aime tellement parler de ce sujet parce que je l'ai vécu. Non seulement à ce moment-là, mais ça a été construit à bien des moments dans la suite. Et je vous lirai à la fin un témoignage de quelqu'un qui a eu besoin de faire une belle expérience. Je vous lirai ça tout à l'heure. La révélation du Père est nécessaire. La révélation, ce n'est pas juste la connaissance. La révélation du Père est nécessaire. Collez-vous aux Écritures pour trouver cela. Je pense à ce pasteur qui, à un moment donné, était toujours un peu agité intérieurement, il était toujours un peu sans percer dans une joie et une paix intérieure. Et quand il s'est mis dans la prière, il a réalisé qu'il y avait une tristesse sur lui et qu'il avait l'impression que Dieu n'était jamais content de son ministère. Il avait l'impression qu'il n'en faisait jamais assez, que Dieu n'était pas content de ce qu'il faisait. Il vivait et servait avec une espèce de culpabilité. Et il avait, en priant, réalisé qu'il avait l'image d'un Dieu exigeant. D'un Dieu exigeant qui ne donne pas grand-chose en retour. D'ailleurs, je fais tout ça, je me dépense et voilà ce que j'ai en retour. Je suis mal payé, etc., etc. Et il n'avait pas saisi la grâce. Et puis, il est resté dans la prière et il a commencé à déverser avec larmes sa tristesse et sa frustration. Et enfin, libre, il est resté encore dans la prière. Là, la réponse est venue. L'amour de Dieu l'a envahi. L'amour de Dieu est venu. Et il a eu une révélation de la grâce. Où Dieu lui a dit, mais tout est grâce, mon fils. Tout est grâce. Tu n'as pas besoin de produire quelque chose pour me plaire. Je te donne la grâce dès le départ. Et vis dans ma grâce. Vis dans la libération de ce poids que tu te mets sur toi-même. Et il a reçu une nouvelle libération dans son ministère. Je vous laisse la paix. Comme un héritage, je vous donne ma paix. C'est comme un héritage bien plus grand où il dit, je viens vivre en toi. Il te faut la révélation du Père. Il faut que tu nourrisses ton âme avec ces vérités. J'aimerais vous demander de lire Jean 14, Jean 15 et Jean 16 à la maison. Pour que vous puissiez nourrir votre âme et dire, Jésus, une telle intimité, c'est juste parce que toi tu es Jésus, mais je ne suis pas du tout à ce niveau-là. Jésus dit, non, je m'en vais vers mon Père et votre Père. Notre Père qui est aux cieux. Ton Père, mon Père, c'est ton Père. C'est ça le salut, mes amis. Le salut, ce n'est pas juste le pardon des péchés, la grâce. C'est recevoir la vie de Jésus. Recevoir la totalité de la vie de Jésus par le Saint-Esprit. Et la révélation, eh bien, c'est d'être nourri par cette vérité. Et pour recevoir cette paix de Jésus, il faut recevoir la parole de Jésus. Et cette parole de Jésus vous donnera le repos intérieur. Alors, une dernière parole encore. Ne prends aucune décision, mon frère, sans avoir la paix du cœur, la paix de Jésus. Aucune décision importante sans la paix du cœur. Ne va pas de l'avant si tu n'as pas la paix. Il faut la paix de Jésus. Je vous donne ma paix. Soyez bénis. Amen.